Vous écoutez
RMC.
7h passées de 1 minute, le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
RMC, Apolline Matin.
Comme un bruit d'explosion, l'éboulement d'un pan de falaise à Biarritz fait un mort et un disparu suspendu hier soir. Les recherches pour tenter de le retrouver vont reprendre ce matin. Plus de 50 millions de Français concernés par la vigilance rouge à la canicule, c'est du jamais vu et les records se succèdent en lien avec cette vague de chaleur qui nous assomme et dont le pic pourrait être atteint ce jeudi. Et les questions encore nombreuses autour de la mort de Liana. L'autopsie du corps de la jeune adolescente n'a pas permis de déterminer avec certitude les causes de son décès.
La mort d'une plongeuse à Biarritz.
Prise au piège par l'éboulement d'une falaise dans la mer. Ça s'est passé hier soir à proximité d'une plage située au cœur de la ville. Un autre plongeur est lui toujours porté disparu ce matin. Grégoire Morelli.
Il est environ 20h hier soir lorsque Jean-Luc Machard-Lavigny, qui se trouvait sur la plage en face de la falaise, assiste à la scène.
On a entendu un énorme bruit, comme une sorte d'explosion on va dire. Et donc très vite on s'est retourné parce que ça a surpris un peu tout le monde. Et donc moi j'ai pu voir les derniers morceaux qui tombaient dans l'eau. C'était immense.
2000 mètres cubes de roche ensevelissent deux plongeurs qui se trouvaient en dessous. Gendarmes, hélicoptères et Zodiac sont alors déployés pour venir en aide aux victimes. Un troisième plongeur a miraculeusement pu en réchapper et être rapidement pris en charge par les secours. Mathieu Duhamel, sous-préfet de Bayonne.
La troisième personne qui est indemne physiquement était hors de la zone d'effondrement mais a été extrêmement choquée.
Dans la soirée, le corps d'une plongeuse a été retrouvé mais les opérations de recherche ont dû être stoppées car d'autres pans de la falaise pourrait encore s'effondrer. Le maire de Biarritz a pris un arrêté pour interdire l'accès, la baignade et la navigation dans un périmètre de 300 mètres autour de la plage.
Il est trop tôt pour dire si cet éboulement est en lien avec la vague de chaleur qui frappe le pays. On a connu hier la journée la plus chaude depuis le début des relevés en 1947, effaçant le précédent record datant de la veille. Pareil pour la nuit qui vient de s'écouler. Le réveil est difficile ce matin et la journée qui s'annonce comme étant le pic de cet épisode avec 72 départements en vigilance rouge devraient éprouver les organismes. Alors certains s'adaptent. Martin Bourdin, vous êtes en direct de Sacla ce matin pour RMC dans cette commune de l'Essonne en compagnie d'un garagiste contraint d'ouvrir avec 2 heures d'avance afin d'éviter les heures les plus chaudes de la journée.
Oui, ici on a commencé à plonger la tête dans les moteurs dès les premières lueurs du jour. Tout le monde au travail à 6h du matin depuis 1h maintenant. Et il fait encore pas loin de 30 degrés dans l'atelier. Ça va évidemment continuer de grimper à cause notamment de ce toit en tôle qui transforme ce garage en cocotte minute dès que le soleil tape un peu trop fort. Hier après-midi, il a fait jusqu'à 49 degrés près des voitures. Je suis avec Thomas, c'est le patron de ce garage. Il est déjà en âge, le pauvre. Thomas, commençait plus tôt pour ne pas travailler l'après-midi. C'était obligatoire là pour vous et pour vos salariés.
C'était plus simple pour eux surtout, parce que avec cette chaleur-là dans l'atelier, c'est un four et c'est inhumain. Et malheureusement, on peut pas se permettre de fermer le garage on arrive en période de vacances, donc tout le monde veut sa voiture pour pouvoir partir en vacances. Donc c'était pour nous pas le choix que de faire comme ça.
C'est un four et en plus il y a des gros tenue vestimentaire qui est lourde à porter.
Malheureusement, ils sont obligés d'être avec leur tenue de travail, chaussures de sécurité, ils peuvent pas être en tongs. Donc ça fait de la chaleur en plus et malheureusement pour eux, oui, c'est très compliqué.
Vous parliez de la charge de travail, Thomas. C'est vrai que si je regarde là, sur le parking du garage, il y a facilement une trentaine de voitures dessus. Il faut faire réviser la voiture en prévision des vacances. Il faut aussi venir faire réparer la clim. C'est l'une des grosses activités du garage en ce moment pour pouvoir évidemment rouler au frais.
Martin Bourdin en direct de Sacla ce matin dans l'Essonne pour RMC. Les conséquences, elles sont nombreuses de cette canicule avec des restrictions d'eau imposées dans le Val d'Oise, des TER suspendus en Nouvelle-Aquitaine de 10h à 18h. La bonne nouvelle, c'est que le courant est rétabli ce matin dans le sud Finistère. Après une longue interruption, jusqu'à 70 000 foyers ont été privés d'électricité. Les commerçants, Rachel Sadodine, n'ont pas été épargnés.
15 heures sans électricité. Patron d'un relais routier, Arnaud n'avait jamais connu une coupure de courant aussi longue. Résultat, le restaurateur installé à Briec a perdu.
Les desserts, les yaourts, le fromage, la salade, le beurre, de poulet, merguez et du rôti. À devoir jeter tout ça à la poubelle, ça fait mal au cœur.
Tout le contenu de ses réfrigérateurs et congélateurs pour un montant d'environ 3 500 euros.
J'ai mon assurance, ils m'ont dit de prendre des photos et fournir les factures des denrées pour être remboursé. Par contre, pour la perte d'exploitation, mon assureur m'a dit que je ne serais pas remboursé parce qu'il faut être fermé 3 jours d'affilée.
Et ce n'est pas le cas d'Arnaud, car même sans électricité, il a décidé de rester ouvert toute la journée d'hier pour ne pas laisser les chauffeurs routiers en proie à la canicule dans leur camion.
J'ai fait un petit café filtre, du gaz, j'ai pu mettre de l'eau à chauffer et puis ils ont pu aller au moins se laver et puis aller aux toilettes.
Solidaire, malgré la galère, comme Marie, son magasin de jouets situé à Douarnenez a lui aussi été privé d'électricité.
J'ai dit aux gens d'aller chercher du cash, sauf que les distributeurs étaient en panne, donc fais confiance aux gens, j'ai fait des crédits.
Chez Marie, le courant a été rétabli hier après-midi et les clients sont revenus payer leur dû.
Et pour la première fois de l'année, 2 départements, la Haute-Garonne et les Deux-Sèvres, ont basculé en danger très élevé de feux de forêt. RMC, il est 7h06, l'autopsie du corps de Liana n'a pas permis de déterminer avec certitude les causes de sa mort. Le principal suspect de cette affaire, Jérôme Barella, est désormais poursuivi pour meurtre et viol sur mineur. Dans ce dossier, la magistrate du parquet d'Auch, ciblée par une enquête administrative pour ne pas avoir pris en compte la plainte d'une jeune adolescente contre Jérôme Barella l'été dernier, s'estime victime d'une injustice. Devoir de réserve oblige, elle ne peut pas s'exprimer publiquement, mais selon les informations de nos confrères de BFM TV, elle considère avoir fait tout ce qu'elle a pu, selon des échanges avec ses proches. Constance Bostoen.
La substitute du parquet d'Auch assure à ses proches que son sort est scellé. « J'aimerais crier haut et fort ma défense, expliquer dans quelles conditions nous travaillons », leur écrit-elle, alors que le rapport de l'inspection générale de la justice dresse des conclusions sévères à son égard. Entre, je cite, « une perte de temps » ou encore « une absence de prise en compte de l'urgence », son travail sur la plainte déposée par la petite Rosa en août dernier a été disséqué par les inspecteurs qui lui reprochent entre autres un manque de suivi de ce dossier. Si la magistrate concède avoir oublié de cocher la case « urgent » au moment d'envoyer le dossier aux gendarmes, elle vit la situation comme une injustice. « Je ne pouvais pas faire mieux », livre-t-elle dans ses messages. Le Conseil supérieur de la magistrature examinera ses fautes potentielles dans les prochaines semaines. En attendant, elle a l'interdiction de traiter les dossiers concernant des mineurs.
Au moins 32 morts et plus de 700 blessés au Venezuela, frappés par 2 puissants séismes. L'état d'urgence est décrété. Plusieurs bâtiments se sont effondrés au cœur de la capitale, Caracas. Le Maroc et le Brésil qualifiés en 16e de finale de la Coupe du Monde. Les Marocains se sont fait peur. Ils s'imposent finalement face à Haïti. 4-2. Ils poursuivent l'aventure. 2e de leur groupe derrière le Brésil qui écrase l'Écosse. À noter les qualifications également de l'Afrique du Sud. Du Mexique qui termine premier de sa phase de poule. La Suisse et le Canada sont également qualifiés avec la Bosnie assurée de finir dans les meilleurs 3e. Les Bleus, eux, se préparent à affronter la Norvège demain soir en quête de la première place du groupe I, sans Didier Deschamps parti aux obsèques de sa mère en France et Guy Stéphan qui va le remplacer sur le banc. L'adjoint de Didier Deschamps avec lequel il collabore depuis 17 ans maintenant, Florent Germain.
Oui, Guy Stéphan est le véritable bras droit de Didier Deschamps, actif lors des séances d'entraînement, fin tacticien, très pédagogue avec les joueurs. Le fidèle adjoint du sélectionneur a su se rendre indispensable, explique le défenseur Laurent Bonnard, qui a joué sous ses ordres à Marseille.
Et ils ont créé avec Didier Deschamps une relation et un binôme qui fonctionne très bien, qui a une confiance absolue l'un en l'autre. La personnalité de Guy Stéphan va dans le sens d'être entraîneur adjoint et en même temps, Didier Deschamps, qui est oui, le numéro 1, prend un peu plus la lumière effectivement, mais ça lui va bien, c'est un binôme qui, en fait, chacun a trouvé sa place.
Ouais. Il n'y a pas de Didier Deschamps sans Stéphan, disait même récemment Kylian Mbappé. Le Ballon d'Or 1991, Jean-Pierre Papin, ne garde lui que de bons souvenirs de Stéphan quand celui-ci entraînait les Girondins de Bordeaux.
C'est quelqu'un qui est très apprécié du groupe, en général. C'est quelqu'un qui, footballistiquement parlant, connaît bien son job, tactiquement très à l'aise, à l'écoute des joueurs. Il y a quelques messages à faire passer. En général, ça se passe plutôt bien. Pour moi, c'est un des meilleurs coachs que j'ai jamais eu.
Guy Stéphan, un homme et ami de confiance pour Deschamps, avec qui il reste en contact permanent malgré cette parenthèse très douloureuse liée au décès de sa maman.
France-Norvège, ce sera demain 21h sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h09 sur RMC. Vous êtes très très nombreux à nous appeler pour nous dire comment vous faites tout simplement pour affronter cette canicule qui dure. Il y a Thierry qui est en direct avec nous depuis la Charente. Bonjour Thierry.
Bonjour Apolline.
Thierry, vous avez carrément décidé de planter la tente dans le jardin avec votre femme.
Ouais, alors c'était marrant les 2 premiers jours, mais là ça devient la blague, elle est assez dure. En fait, c'est trop long.
Ouais, c'est trop long, c'est trop dur. Vous dormez plus quoi.
Ouais, putain, il fait 31, on dort pas, quoi, on dort pas, il fait chaud tout le temps.
Vous êtes quand même mieux dans le jardin que dans la maison. Il fait combien dans la maison?
À l'étage, tout en haut, il fait 36. Ouais. En dessous, il fait 32. Okay. Et puis il y a pas d'air, quoi. Alors c'est ce qui expliquait les différents météorologues le phénomène de chaleur qui est rentré dans la maison et qui ressort plus, quoi.
Il ressort plus. Voilà, la maison ne se rafraîchit plus.
Non, c'est une vieille maison, pourtant avec des murs qui font 60 cm, mais la chaleur, maintenant, elle est rentrée, mais elle ne veut plus sortir.
Elle ne veut plus sortir, vous ouvrez, j'imagine, la nuit. Donc vous avez sorti quoi, une tente de camping, quoi?
Oui, une tente de camping, on est dehors, au milieu du terrain, et puis avec un ventilateur dans la tente. On dort un petit peu mieux que la maison, parce qu'il y a un petit
semblant d'air. Attendez, vous avez mis une rallonge, vous avez le ventilateur?
Oui, le ventilateur dans la toile de tente. Et puis en plus, moi, j'ai un appareil pour l'apnée du sommeil, la totale.
D'accord, et donc vous avez sorti vos deux rallonges, une pour le ventilo, une pour l'apnée du sommeil?
Voilà.
Ok, et vous vous réveillez du coup épuisé en fait?
Ah ouais, franchement, ouais. Là, début de semaine ça allait, mais là je suis...
Oui, début de semaine, au début j'imagine que quand on ouais, déplie la tente, marrant, on se dit allez, ça nous fera des souvenirs, bah là plus du tout quoi.
Mais en fait, comme explique souvent le médecin, c'est que bah, le corps il se repose pas la nuit, donc on se lève, on est rincé quoi.
Vous faites quoi dans la vie, Thierry?
Je gère un site internet, mais dans le bureau, il n'y a pas de clim et je suis à 33 degrés. Donc pareil, devant l'ordinateur, c'est dur aussi. Hein.
Oui, donc là, vous partez, mais vous savez que la journée va être très très dure, quoi.
Ouais, je travaille de chez moi encore, ça va, je pars pas. Mais, ouais,
à quel étage, j'allais dire? Parce que donc c'est 36 en haut, 32 au milieu, j'imagine que vous avez descendu l'ordinateur au rez-de-chaussée?
Mais il est vers mon bureau en bas, ouais, je suis à 30.
Bon, allez, bon courage en tout cas Thierry, et merci pour votre témoignage. Comme Thierry, vous n'hésitez pas à vous nous appeler au 3216. Et puis la canicule, elle tue, et elle tue notamment les sans-abri. Au moins 3 SDF probablement morts de la chaleur ces derniers jours. Bonjour Patrice Nice. Vous êtes vous-même sans domicile fixe. Vous avez créé un média alternatif dans lequel vous racontez justement votre quotidien. Ça s'appelle l'écho du bitume. Pour vous, il faut absolument une grande mobilisation pour sauver la vie des personnes à la rue. Un plan grand chaud, comme il existe un plan grand froid. Et vous nous le dites dans un instant sur RMC 7h12.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Enfin, je dis vous êtes bien, non, vous êtes pas très bien justement. Et c'est de plus en plus dur, 72 départements en vigilance canicule rouge, plus de 50 millions de Français qui sont concernés et les sans-abri, grands oubliés. Bonjour Patrice Nice, merci. Bonjour. D'être en direct avec nous. Vous êtes vous-même SDF et vous avez créé le média alternatif L'Écho du Bitume dans lequel vous racontez justement votre quotidien. Votre parti pris ce matin, c'est qu'il faut une grande mobilisation pour sauver la vie des personnes à la rue. L'hiver, on parle du plan grand froid, il faudrait un plan grand chaud, c'est ça?
Oui, tout à fait, parce qu'on est capable de débloquer des fonds, de débloquer des hébergements l'hiver pour les sans-abri, et c'est parfaitement normal. La Constitution dit, de 1958 dit que l'État est là pour aider les citoyens dans des événements graves de leur vie. Le sans-abrisme est un événement grave de la vie de quelqu'un, et on doit pouvoir débloquer des solutions, des hébergements, de l'argent. Il y a des choses à faire pour les sans-abri en été, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il y a plus de sans-abri qui meurent entre mars et novembre qu'entre novembre et mars.
Oui, on meurt plus de la chaleur hein, parce qu'on ne peut effectivement pas s'en abriter. Comment vous faites d'abord, vous, concrètement, Patrice Nice? Je crois que vous avez trouvé quand même refuge chez votre fils pour quelques jours, c'est ça?
Voilà, jusqu'au début du mois de juillet, je suis chez mon fils qui, lui, est descendu sur l'Aveyron. Et il m'a dit, tu restes à la maison, j'ai pas envie de te voir... comme il m'a dit, j'ai pas envie de te voir canner sur le bord d'un trottoir, quoi.
Ah oui, il vous a dit ça, mais c'est temporaire, mais il vous a laissé son lit, j'allais dire. Comment vous faites après? Est-ce que vous anticipez la suite l'été?
Oh non, la suite est déjà anticipée pour moi, parce que je vais descendre sûrement dans le centre de la France. Je vais essayer de trouver une solution. Il y a des solutions. Je suis ce qu'on appelle une forteresse. Il y a rien qui peut me faire tomber. Et donc, mais il y a aussi des gens faibles dans la rue qui sont moins forts que moi psychologiquement, et c'est surtout eux qu'il faut aider. Moi, j'arrive à me débrouiller, mais c'est les autres qu'il faut aider, parce qu'on les oublie complètement. Le budget pour lutter contre le sans-abrisme baissé dans le budget, ça c'est incroyable. On met de l'argent dans des choses qui sont importantes comme la défense et la police ou la justice, je ne suis pas contre, mais pourquoi on ne met pas plus d'argent pour lutter contre le sans-abrisme?
Il y a eu 3 SDF au moins qui sont morts depuis le début de la canicule. Vous avez le sentiment, vous, que les pouvoirs publics vous abandonnent? Vous voulez interpeller les politiques?
Oui, je veux interpeller les politiques, parce que jamais un SDF n'a été reçu au ministère du Logement, au ministère de la Santé, au ministère de la Solidarité, à Matignon ou à l'Élysée. Pourquoi on nous refuse l'accès à ces politiciens et à ces membres du gouvernement?
Alors ça, pour le coup, moi, je peux faire passer le message, c'est-à-dire qu'effectivement, je trouve important, et je peux vous assurer, et j'en prends l'engagement auprès de vous, que lorsque je recevrai le ministre du Logement, je lui parlerai de cela et je lui donnerai également vos coordonnées. La question maintenant, c'est aussi, c'est ce qu'on fait dans l'urgence. Est-ce qu'il faut ouvrir les églises, l'église, les gymnases, les lieux où il peut encore y avoir un peu de fraîcheur, en priorité au SDF ?
Les églises sont déjà ouvertes.
D'accord.
Ça a été décidé par l'évêché de France, je crois. Ils ont décidé d'ouvrir toutes les églises et les cathédrales pour que les sans-abri puissent se mettre au frais. Il y a des bibliothèques qui sont ouvertes, mais uniquement la journée, pas la nuit. Voilà. Et la nuit, parfois, il fait aussi chaud que le jour. Il y a d'autres solutions aussi. L'accès aux piscines, par exemple, une piscine, c'est payant. Pourquoi, par exemple, si une personne est SDF, pourquoi elle ne pourrait pas aller à la piscine? On lui prête un maillot de bain, la personne peut être au frais. Ça peut lui faire énormément bien. Il y a énormément de solutions. Il y a aussi beaucoup d'associations qui œuvrent. Il y a des citoyens et des citoyennes qui œuvrent aussi tous les jours, qui vont distribuer de l'eau, qui vont donner à manger aux sans-abri. C'est très bien. Mais le gouvernement doit faire beaucoup plus. On doit augmenter le budget de la lutte contre le sans-abrisme à 10 milliards minimum.
On se souvient de la promesse d'Emmanuel Macron en 2018. Il avait dit « Tous les sans-abri auront un toit ». Vous n'y avez jamais cru?
Il a dit exactement, je ne veux plus voir personne dehors avant la fin de l'année, mais il n'a jamais précisé quelle année. Hein. Voilà, donc 10 ans après, presque rien n'a avancé. Le nombre des SDF a doublé. Tout le monde dit 350 000 SDF, mais c'est le chiffre qui est des gens qui sont hébergés dans des CHRS ou des CHU. Mais il y a aussi d'autres formes de sans-abrisme. Il y a des gens qui sont dans des toiles de tente, il y a des gens qui sont dans des camping-cars, il y a des jeunes qui sont dans ce qu'on appelle des camtars, des camions aménagés. Vous avez aussi des gens qui sont SDF que vous croisez dans la rue, vous ne savez pas s'ils sont SDF. Voilà. Il faut faire énormément de choses. Il ne faut pas oublier ces personnes qui sont à la rue. Ce sont des citoyens et des citoyennes à part entière et non pas des citoyens et des citoyennes à part. Nous avons les mêmes droits que les autres. Nous réclamons simplement l'application des mêmes droits que les autres. Et nous réclamons aussi, une chose importante, l'application entière de l'ordonnance du 11 octobre 1945 sur la réquisition des logements qui dit que tout élu peut réquisitionner un logement social ou privé, vide, et sera indemnisé par l'État. Il faut simplement appliquer ça. Ça a été repris dans la loi Habitation et dans la loi Dalo.
Il faut maintenant l'appliquer. Et c'est effectivement toujours la difficulté. On a l'impression d'un décalage, effectivement, entre ce qui est dit et ce qui est fait. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir témoigné ce matin. Patrice Nice, vous êtes journaliste SDF. Votre média, ça s'appelle L'Écho du Bitume. Ne nous oubliez pas. Voilà aussi l'alerte que vous lancez ce matin pour ce plan grand chaud, comme il y a un plan grand froid. Il est 7h20 sur RMC. On va remonter le temps, comme chaque jour, avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, un sommet France-Italie cet après-midi. L'histoire de nos deux pays intimement liés.
Et c'est le moins qu'on puisse dire, puisque sans la France, l'Italie n'existerait tout simplement pas. C'est un emprunt français qui a permis sa création.
Vous nous le dites dans un instant. Je vous redonne, tiens, l'invité du face-à-face, notez-le, à 8h30. Je reçois le patron des magasins Intermarché, Thierry Cotillard. Les ventilateurs, les climatiseurs s'arrachent. Difficile aussi parfois de trouver des glaces et des produits frais dans les supermarchés. Le changement aussi de nos modes de consommation et les prix. Toutes les réponses, vous les aurez à 8h30. Il est 7h21 sur RMC. On se retrouve dans 60 secondes.
RMC. Apolline Matin.
Il est 7h22 et comme chaque jour, on va remonter le temps avec Arthur Chevalier. Arthur, cet après-midi, Emmanuel Macron reçoit la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, à Antibes, dans les Alpes-Maritimes.
Oui, un sommet diplomatique qui s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle le traité du Quirinal. C'est un traité qu'on a signé il y a 5 ans, à Rome, avec l'Italie donc. Et le but, c'était d'améliorer la relation entre nos deux pays, renforcer la coopération dans tous les domaines. Et cette année, la priorité d'Emmanuel Macron et de Giorgia Meloni, ça sera les infrastructures de circulation, notamment le tunnel transfrontalier du Fréjus et les lignes de train entre les grandes villes, comme celle qui relie Lyon à Turin.
Entre la France et l'Italie, c'est une très très vieille histoire.
Oui, et figurez-vous que sans la France, Apolline, l'Italie n'existerait même pas. C'est pas une façon de parler. Alors pour comprendre, il faut remonter très loin en arrière. Nous sommes au milieu du 19e siècle et à cette époque, l'Italie n'existait pas en tant que pays, cette péninsule, c'était juste un ensemble de petits états indépendants qui n'avaient strictement rien à voir les uns avec les autres. Et la plupart de ces états étaient dominés par un immense empire qui était au nord, l'Empire d'Autriche. Sauf qu'un jour, ils décident de se libérer de cette domination.
Et c'est là que la France entre en jeu.
Oui, notre chef d'état à l'époque, c'est un empereur, Napoléon III, et il va décider d'aider ces états italiens à se libérer des Autrichiens et à s'unifier pour former un vrai pays. Donc il signe un traité avec le leader de l'indépendance italienne, c'était le roi de Sardaigne, il s'appelait Victor Emmanuel II. C'était la première alliance de l'histoire entre la France et l'Italie.
Donc là, une guerre commence?
Exactement, avec d'un côté France-Italie, de l'autre l'Autriche. On envoie 170 000 soldats français dans la péninsule, c'était énorme. La campagne va être triomphale, on va gagner beaucoup de batailles contre les Autrichiens Et en 1860, victoire, le royaume d'Italie est proclamé. C'était donc la naissance très formelle de l'Italie. Alors ça rassemblait toute la péninsule, sauf la région de Venise et la ville du pape, Rome, qui seront rattachées quelques années plus tard.
La France a, elle aussi, gagné quelque chose avec l'indépendance de l'Italie.
Et oui, quelque chose d'important, puisqu'en échange de son aide décisive, le nouveau roi d'Italie nous a carrément cédé une partie de son territoire. On a récupéré une région entière, la Savoie, et surtout une des plus grandes villes de la Méditerranée, la ville de Nice, qui devient donc française à cette occasion. Donc forcément, tout ça crée des liens que Giorgia Meloni et Emmanuel Macron devront faire vivre pendant ce nouveau sommet qui a lieu aujourd'hui.
Merci Arthur, Arthur Chevalier, qui nous permet de remonter le temps chaque jour sur RMC. Il est 7h24, Arnaud Demange ne peut pas être là avec nous ce matin, mais on en garde le meilleur à 8h15. Il sera donc encore un peu avec nous malgré tout. Et puis surtout, je voulais vous le dire, c'est le moment de jouer. Vous l'attendiez cette alerte, parce que vous le saviez, il y a 50 000 euros, je vous l'ai dit tout à l'heure, 50 000 euros dans la prime de match. Souvenez-vous, on avait mis 30 000 euros au départ, on a rajouté 500 euros à chaque but gagné. Et au moment où on se parle, il y a donc 50 000 euros de prime de match. Cette somme, retenez bien, parce qu'elle sera à vous si, quand on vous appelle, vous êtes en mesure de donner le montant de la prime de match, 50 000 euros. Pour ça, il faut vous inscrire, vous envoyez dès maintenant but au 7-32-16, but au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire, il est 7h25, vous avez donc jusqu'à 7h35. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et juste après cette question, dans un instant, il y aura la météo et le journal. Et puis, comment travailler sous ces fortes chaleurs? Il faut un droit de retrait climatique. Voilà ce que demande la CGT. La patronne de la CGT, Sophie Binet, est l'invitée d'Apolline Matin dans 10 minutes sur RMC. À 7h50, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflo. Elle viendra nous dire que les mesures d'adaptation ne suffisent pas, qu'il faut carrément changer de système. Oui, mais comment? Je lui pose la question, évidemment. Ce sera à 7h50. À tout de suite sur RMC, 7h26.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des élèves qui saignent du nez, d'autres qui font des malaises. La chaleur pèse de plus en plus en classe. Certains syndicats appellent à fermer les écoles primaires. Dans ce journal, vous entendrez le témoignage exclusif de Manon, renversée il y a 3 ans à Saint-Malo par un chauffard récidiviste dont le procès s'ouvre aujourd'hui. Et puis le Maroc a souffert mais rejoint bien les 16e du mondial. Victoire 4-2 contre Haïti.
Des températures déjà étouffantes au réveil.
La nuit a été courte pour 51 millions de Français qui sont concernés par cette vigilance rouge. Canicule aujourd'hui après une journée de tous les records. Hier, plus de 43 degrés enregistrés en Vendée. 11 départements vont repasser en orange ce soir, mais la chaleur ne va pas se dissiper tout de suite. Et le stress grandit chez les enseignants. Des syndicats réclament la fermeture des écoles dans les départements en vigilance rouge, car il est impossible de faire classe quand il fait 35 degrés dans la pièce. C'est le cas de Sylvie, institutrice dont plusieurs élèves ont fait des malaises cette semaine.
Maux de tête, maux de ventre, vomissements et 3 élèves qui ont saigné du nez en classe de CP. Moi, sur mes élèves, j'ai beaucoup d'absents, mais quand même un vrai malaise ce matin. Sur l'école, on a une 15aine d'élèves lundi, mardi qui ne se sont pas sentis très bien et qui ne sont pas revenus. C'est un stress parce qu'effectivement, on se sent quand même un petit peu seul. Il peut y avoir des premiers signes de déshydratation qui peuvent nous échapper parce qu'on n'est pas médecin. Donc, c'est un stress et c'est une vigilance de tous les instants.
Chaleur exceptionnelle qui provoque des situations jamais vues comme ces incendies dans l'Allier, le Maine-et-Loire ou encore le Lot-et-Garonne où près de 100 hectares sont partis en fumée ces derniers jours. Feu qui s'est propagé à cause du temps chaud et sec, repéré relativement rapidement grâce à des caméras dont s'équipent de plus en plus de départements. Marion Gauthier l'a constaté auprès des pompiers de Gironde.
Un petit bureau de verre recouvert d'écran, la concentration de 3 pompiers.
Voilà, donc là tu vois, t'as Arcachon. On a l'impression qu'on est au cœur de la saison feu de forêt alors qu'elle est censée débuter.
Souligne le commandant Julien Dulot, 132 caméras détectent des fumées dans les massifs forestiers et les alertes tombent chaque minute.
Ça peut être une fumée liée à des travaux agricoles, de la poussière.
Ici on vient recevoir une alerte.
Thomas Guillaumard analyse donc, les vidéos des caméras, les cartes.
Un départ de feu sur la commune de Gaillan-Médoc.
La caméra qui a détecté, c'est 6 minutes avant
avant le premier appel.
Oui, dans les 6 minutes, effectivement, c'est conséquent sur un départ. Plus on arrive tôt sur les lieux et moins le feu il a de l'ampleur. Et surtout avec les conditions météo que l'on a aujourd'hui, chaque minute est comptée sur l'engagement des secours.
Mais il faut aussi les préserver. Avec une végétation déjà très sèche, l'été risque d'être long.
Une autre alerte qu'on vient d'avoir.
Le but ici, c'est d'avoir une bonne répartition sur l'engagement des moyens, de ne pas surengager et au contraire, de ne pas sous-engager sur des situations opérationnelles.
200 à 300 pompiers sont répartis chaque jour sur le territoire, prépositionnés pour intervenir plus vite.
Et en Nouvelle-Aquitaine, notez qu'il n'y aura aucun train TER aujourd'hui et demain entre 10h et 18h. La SNCF dit vouloir préserver au mieux les installations ferroviaires. Il est encore trop tôt pour établir un lien avec la canicule, mais un pan de falaise s'est effondré hier à Biarritz dans le sud-ouest, sous le phare au niveau de la plage du Miramar. Des rochers se sont détachés avant de s'écraser dans la mer. Une plongeuse est morte, un autre est toujours recherché.
Et puis un témoignage exclusif ce matin sur RMC, celui de Manon, une adolescente victime d'un chauffard récidiviste.
Un octogénaire dont le procès s'ouvre aujourd'hui à Saint-Malo en Bretagne. Il est jugé pour avoir renversé donc Manon et son grand-père il y a 3 ans. Le grand-père en est décédé et ses proches sont d'autant plus en colère que le conducteur avait déjà fauché un piéton 3 mois plus tôt. Pierre Bazin a rencontré cette adolescente blessée lors de cet accident.
Oui, le jour de l'accident, Manon a 13 ans, elle accompagne son grand-père pour quelques courses. Les vacances de l'adolescente commencent à peine, mais elles virent au drame.
Je vois une voiture au loin et je réalisais pas qu'elle s'arrêtait pas. C'est mon grand-père qui a pris tout le choc de son côté et qui m'a protégée de la voiture. Sans mon grand-père, j'aurais pas été devant vous aujourd'hui. J'avais des côtes cassées, mon poignet aussi, et avec le choc, je réalisais pas que j'étais blessée. J'ai eu beaucoup de haine, de tristesse.
Des sentiments décuplés lorsque la famille de Marcel apprend que le conducteur a déjà fait une victime.
Pourquoi est-ce que cet homme a repris le volant alors qu'il avait déjà au préalable tué quelqu'un 2 mois avant sur cette même route? Ça a vraiment bouleversé nos vies et j'espère qu'il reprendra plus jamais le volant pour pas faire d'autres victimes et détruire d'autres familles.
Séverine, la mère de Manon, découvre qu'à l'époque, ni le préfet ni la justice n'ont jugé nécessaire de retirer le permis de conduire de l'octogénaire dès le premier drame.
Il y a un raté quelque part. Peut-être qu'on aurait pu l'empêcher de conduire, cet homme. Enfin, je sais pas, on peut tuer aujourd'hui et puis il se passe rien.
La famille de Marcel compte attaquer l'État pour faute lourde. De son côté, l'avocat du conducteur explique que son client se pensait capable de reconduire avant qu'on lui diagnostique des problèmes de vue au cours de l'enquête.
Témoignage RMC recueilli par Pierre Bazin du service police-justice. La panique dans les rues de Caracas au Venezuela. Les habitants cherchent leurs proches après 2 tremblements de terre cette nuit de magnitude supérieure à 7. Des immeubles se sont effondrés. L'aéroport de la ville est fermé. Au moins 32 morts et plus de 700 blessés selon la présidente par intérim. Mais le bilan pourrait être bien plus lourd. Plus de détails dans le journal de 8h.
À la Coupe du Monde, une soirée parfaite pour le Brésil.
Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Le Brésil qui termine en tête de son groupe après s'être imposé facilement 3-0 contre l'Écosse avec un doublé de Vinicius, match marqué aussi par le retour de Neymar sur le terrain. Le Brésil devant le Maroc, qualifié aussi grâce à sa victoire 4-2 contre Haïti. Les Marocains ont été accrochés mais ont su inverser la tendance, se félicite le capitaine Achraf Hakimi.
On savait que c'était un match pièce pour nous. Et on sait que Haïti, il a rien à perdre, mais beaucoup à gagner. Il voulait marquer son premier but dans l'histoire de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'ils sont surpris, nous, avec le premier but. Moi, je suis très content et fier pour le travail de l'équipe avec le spirit qu'on a sorti. On a revenu que c'était pas facile, même 2 fois. Et on espère que ça se donne en force, en plus pour la suite.
Et pour l'équipe de France, il suffirait un match nul demain soir contre la Norvège pour terminer premier de leur groupe. Coup d'envoi 21h, vous le vivrez évidemment sur RMC.
Et puis le quintet, c'est à Laval ce soir, départ 20h45.
La Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 3, Love de Cerise. L'outsider, c'est le 8, Lovina Perrine, le 3 et le 8.
C'était le journal de Clara Gabi et il est 7h36 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
72 départements en vigilance canicule rouge, plus de 50 millions de Français concernés et des salariés parfois sous 40 degrés. Sophie Binet est mon invitée dans un instant, secrétaire générale de la CGT. Elle réclame la création non pas d'un congé climatique comme le demandent les écolos, mais d'un droit de retrait climatique. Elle nous explique de quoi il s'agit dans un instant. Elle répond à mes questions mais aussi aux vôtres. N'hésitez pas à m'appeler. Vous souffrez peut-être au boulot. Est-ce que vous auriez besoin de ce droit de retrait climatique? Ou alors si vous êtes, tiens, patron dans le les TP notamment, ou dans la grande distribution, ou dans le commerce, ou sur les routes. Appelez-moi au 3216. Dites-moi comment vous feriez, et si vous estimez qu'il serait souhaitable ou pas du tout d'avoir un congé climatique ou un droit de retrait climatique. J'attends votre réaction au 3216. Il est 7h37.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h40 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. La question de l'équation entre travail et canicule, de plus en plus difficile. Des ouvriers du BTP qui travaillent sous 40 degrés, des cuisiniers là où la chaleur affole les thermomètres, des chauffeurs de bus qui brûlent au volant littéralement. Bonjour Sophie Binet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes la secrétaire générale de la CGT et face à la canicule qui se poursuit partout en France, vous demandez des mesures d'urgence, vous demandez un droit de retrait climatique. C'est quoi ?
En fait, c'est un système qui permet de protéger la santé des salariés, des travailleurs et des travailleuses. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Le Code du travail ne prévoit pas de température maximum au-delà desquelles l'employeur est obligé d'adapter le travail. Donc, il faut changer le Code du travail pour le prévoir. Il faut que dans tous les territoires, les préfets mettent en place des réunions d'urgence, que dans tous les territoires en vigilance rouge, les préfets interdisent le travail en extérieur l'après-midi. Aujourd'hui, il y a 72 départements en vigilance rouge. Il y en a seulement 6 dans lesquels le travail en extérieur est interdit. C'est hallucinant. Ça veut dire qu'on demande à des ouvriers dans le BTP, à des ouvriers agricoles, de travailler en extérieur par 45 degrés.
Alors, dans les faits, on l'a bien vu, il y a un certain nombre d'aménagements qui se font, mais c'est au cas par cas, c'est selon la bonne entente aussi entre patrons et salariés, dans le BTP comme dans le monde agricole. Vous, vous demandez à ce que ce soit automatique, c'est-à-dire que à partir de quelle température, j'ai vu que vous parliez d'une température convenable. Si la température convenable est dépassée, alors il faudrait pouvoir exercer ce droit de retrait. C'est quoi une température qui ne serait plus convenable ?
En fait, tout simplement, c'est les seuils qui sont définis par les chercheurs, par l'INRS, c'est-à-dire 28 degrés pour les travaux physiques. Donc ça, c'est vraiment la recherche qui montre qu'à partir de 28 degrés, c'est dangereux de faire un travail physique, et 30 degrés pour un travail sédentaire. Et donc, à partir de ces températures-là, l'employeur doit être obligé d'adapter le travail. Ça existe déjà des secteurs où on travaille à plus de 28 degrés, notamment, par exemple, quand on est fondeur, quand on travaille dans une fonderie, on travaille à côté d'un four à des centaines de degrés, mais il y a des mesures d'adaptation, avec plus de pauses, avec une réduction du temps de travail, avec des mesures de pénibilité, etc. En fait, il faut mettre en place ça partout.
On est d'accord, Sophie Binet, que c'est pas le droit au congé climatique. C'est-à-dire que ça fait plusieurs jours qu'on parle beaucoup de cette histoire de congé climatique qui est proposée par les écolos. Ils parlent de 4, 5, peut-être 6 jours de congé climatique dans l'année en cas, effectivement, de très grandes perturbations. C'est pas la même chose.
Non, c'est pas la même chose. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait un dispositif de chômage partiel intempérie. On l'a obtenu l'année dernière, mais seulement pour le secteur du bâtiment, et avec une grosse perte de salaire, puisque en gros, on a 60% du salaire seulement, alors qu'on n'est pas responsable de l'interruption du travail. Et donc, il faudrait une garantie de 100% de salaire, et il faudrait que ce dispositif puisse être actionné dans tous les secteurs. Il n'y a pas que le bâtiment qui a besoin de pouvoir s'arrêter dans les périodes de
pénurie. Mais Sophie Binet, vous n'êtes pas favorable au congé climatique ?
Ça dépend, ça doit se discuter, mais seulement 5 jours par exemple dans le bâtiment ou dans l'agriculture, ça suffit pas par exemple. Donc c'est pour ça que nous, on demande plutôt un dispositif de chômage partiel intempérie rémunéré à 100%, qui permette dans les endroits où il faut arrêter l'activité de le faire sans qu'il y ait de pénalisation des travailleurs.
Chômage partiel intempérie et ce droit de retrait effectivement en fonction des grosses chaleurs. Il y a Hervé qui nous a appelé de Seine-Saint-Denis, vous êtes à Montreuil, bonjour Hervé.
Bonjour Apolline.
Hervé,
bonjour,
je crois que vous avez longtemps travaillé dans le BTP et vous travaillez maintenant dans la restauration. Donc vous avez les deux expériences. Comment ça se passait dans le BTP? Comment ça se passe aujourd'hui dans la restauration? Dites-nous.
Moi, dans le bâtiment, j'avais eu la chance de tomber sur des patrons. C'était cool parce que quand ils avaient des grosses chaleurs, ils ont commencé de bonne heure avec l'accord de tous les collègues. 5h du matin pour finir à midi, parce que sur les échafaudages c'est impossible, et comme j'étais dans la peinture en plus, vous imaginez bien par cette chaleur, la peinture de ravalement séchait automatiquement. J'ai des collègues couvreurs pareil qui commençaient à 4h du matin.
Ça se faisait en bonne intelligence.
Voilà, c'est ça. Il faut que les patrons soient cool et travaillent en bonne intelligence, parce que sinon c'est pas possible.
Je vais vous réinterroger sur la restauration, mais tout de suite je voudrais que Sophie Binel puisse réagir. Faut que les patrons soient cool.
Bah, c'est ça le problème en fait. C'est
alors il y en a quand même.
Hein. Bien
on a
sûr.
De nombreux témoignages depuis plusieurs jours de gens qui travaillent dans l'agriculture, dans le BTP, qui nous disent on s'est adapté, on travaille plus tôt, le patron est cool, à midi on rentre chez nous.
Bien sûr, notamment les patrons dans les petites entreprises qui sont sur le terrain comme les salariés et qui vivent la chaleur pareil. Le problème c'est qu'on a un certain nombre de grands patrons qui vivent dans une réalité parallèle et qui passent de salle climatisée en salle climatisée et qui se rendent pas compte de ce que c'est sur le terrain. Et je rappelle que c'est pas une question de confort en fait, c'est une question de vie ou de mort la chaleur. Dans le dernier épisode de canicule, il y a par exemple un ouvrier qui s'appelle Daniel, qui s'appelait Daniel, qui avait 19 ans, qui était couvreur et qui est mort.
Qui est mort.
C'était au mois de mai. Il avait 19 ans. Et je sais qu'il y a eu d'autres cas qui ne sont pas recensés. Donc là encore, dans cette canicule, il va y avoir des morts au travail. Tout ça parce que les mesures d'anticipation n'ont pas été prises. Nous sommes extrêmement en colère de ça.
La responsabilité pour vous, elle incombe aujourd'hui. C'est-à-dire, s'il y a des morts au travail, et il y en aura, dites-vous, la responsabilité en incombe au gouvernement de ne pas avoir su protéger, de ne pas avoir donné ses règles.
Au patronat d'abord, hein, c'est lui qui a la responsabilité. Il y a un décret qui existe depuis un an qui n'est même pas appliqué, puisque ce décret, il impose que toutes les entreprises prennent des plans de prévention. Dans la majorité des entreprises aujourd'hui, il n'y a pas de prévention canicule. Et puis au gouvernement ensuite, évidemment, qui fait l'autruche, qui vit dans une réalité parallèle et qui ne prend aucune mesure à la hauteur. Je rappelle que dans le dernier budget, ils ont divisé par 3 le budget lié à l'adaptation climatique.
Le plan vert, comme ils disent. Hervé, maintenant, vous êtes vous-même patron, je crois, puisque vous êtes devenu manager en restauration. Alors, est-ce que
ouais,
vous
manager,
protégez... Est-ce que... Alors, ouais. Quasi patron, j'allais dire. Comment vous faites? Vous les protégez? Comment vous faites pour vous adapter dans la restauration à ces extrêmes chaleurs?
J'ai pas le droit, en fait, je suis pas décisionnaire là-dessus. Maintenant, je pense que au niveau de la restauration, il faudrait une loi vraiment effective pour tous les restaurants, parce que quand je vois les patrons qui imposent des chimistes fermés jusqu'en haut, 40 degrés, manchong, c'est pas possible. Enfin, moi, je me suis battu plusieurs fois avec des patrons pour pouvoir au moins remonter les manches. Et les pauvres cuisiniers dans les cuisines de Paris, qui sont la plupart du temps encavés, où il fait plus de 50 degrés. Et
à côté des fourneaux.
À côté des fourneaux, des fois, on monte à 65-70 degrés. C'est pas possible. J'ai vu plusieurs collègues faire des malaises. Ça, il faudrait vraiment une loi globale. Surtout, alors je sais que ce serait un manque de chiffre d'affaires pour les patrons, mais ce serait une solution à envisager quand les températures extérieures dépassent 40 degrés.
Merci beaucoup Hervé, je voudrais justement que là-dessus vous puissiez réagir Sophie Binet. On en est là quand même, on a Hervé qui nous dit qu'il a dû plusieurs fois s'engueuler avec des patrons juste pour qu'on accepte de remonter les manches.
Mais oui, mais vous savez que dans un certain nombre de supermarchés, les caissières sont obligées de mettre leur doudoune pour qu'on voit la marque du supermarché. On en est là quand même au travail.
Dans quel supermarché, pardon, mais je vous pose la question puisque je reçois tout à l'heure le patron d'Intermarché.
C'était notamment, je crois, le cas à Auchan. J'ai pas les noms en particulier.
Je poserai la question en tout cas au patron d'Intermarché qui m'a invité à 8h30.
Il y a des tenues de travail qui ne sont pas du tout adaptées avec des exigences complètement hallucinantes qui sont imposées aux salariés.
Le ministre du Travail hier, Jean-Pierre Farandou, il disait on ne va pas mettre le pays à l'arrêt parce qu'il fait 30 degrés.
Non mais d'abord j'ai envie de lui dire à Monsieur Farandou qu'il fait pas 30 degrés, il fait 45 degrés. Donc déjà il faut qu'il atterrisse par rapport aux températures effectives. Et ensuite sa responsabilité de ministre du Travail, c'est de protéger la vie des travailleurs et des travailleuses. On a eu une réunion hier à la demande de la CGT. Il y a une table ronde qui s'est réunie sur la question de la canicule. Je leur remercie d'avoir organisé cette table ronde très rapidement.
Et c'était à votre demande d'ailleurs.
Tout à fait. Le problème c'est qu'en fait dans cette réunion il nous a juste donné rendez-vous à l'automne. La question c'est est-ce que l'objectif du gouvernement c'est de présenter son plan canicule à Noël. Enfin, c'est la deuxième canicule de l'été. On est au tout début de l'été. Il va y en avoir encore une grosse série. On sait que dans 10 jours, il y en a une nouvelle. Donc, il faut absolument prendre des mesures d'ensemble.
Une question encore, parce que justement Jean-Pierre Farandou, je le recevais il y a quelques jours sur RMC, je l'interrogeais sur ces fameux tests salivaires. C'est Sébastien Lecornu qui a dit qu'il fallait montrer l'exemple et donc accepter des tests salivaires. Il le fait dans les ministères et il disait, et pourquoi pas le faire dans le monde du travail. Patrick Martin, le patron du MEDEF, disait que c'était un véritable fléau, la drogue au travail, et qu'il n'était pas contre l'idée éventuelle de tests salivaires réguliers dans les entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
L'enjeu, c'est d'avoir un vrai plan de prévention contre les addictions qui, effectivement, augmentent. C'est un problème de fond. Par contre, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai été scandalisée par les propos de Patrick Martin qui expliquait que c'était à cause de la drogue qu'il y avait une bonne partie des accidents du travail. En France, on a le bonnet d'âne. Il y a 3 ouvriers par jour qui meurent au travail. C'est pas parce qu'ils sont drogués. C'est parce qu'il n'y a pas de mesures de prévention dans les entreprises. Et donc, moi, ce que je tiens à dire dans cette période très grave, c'est que si le gouvernement et le patronat ne prennent pas leurs responsabilités, la CGT, elle prend les siennes. Et donc, ce que nous avons fait à Stellantis hier, ce que sont en train de faire les chauffeurs de bus...
Je crois qu'il y avait une poignée de grévistes.
Oui, mais en attendant, le fait qu'il y ait cet appel à la grève et qu'il soit médiatisé, ça a imposé la direction.
Oui, enfin, on en a plus parlé dans les médias que
oui,
dans l'usine.
Mais sauf que déjà, il y a déjà eu des mesures d'adaptation grâce à ça.
Pouvez-vous me dire combien il y avait de salariés en grève
hier? Ce que je peux vous dire, c'est que grâce à ça, il y a des mesures d'adaptation qui ont d'ores et déjà été mises en place dans l'entreprise qui n'étaient pas prévues.
Je vous pose la question, avec des pauses supplémentaires. Hier à Stellantis,
l'enjeu, c'est surtout parce que quand on fait grève, on perd de l'argent. Donc les gens n'ont pas envie de perdre de l'argent juste pour ne pas mourir au travail.
Est-ce que c'est pas aussi parce qu'ils ne vous suivent plus?
Mais non, c'est en fait
ils étaient moins de 10, je crois.
Oui, non mais d'accord, mais aujourd'hui les travailleurs
Stellantis moins de 10.
Stellantis Mulhouse, les travailleurs et les travailleuses ne veulent pas mourir au travail et c'est quand même tout à fait naturel et logique. La CGT ne laissera pas faire et grâce à cet appel à la grève, on a forcé la mise en place de mesures d'adaptation du travail.
Et vous
et ça nous allons le faire partout si le gouvernement et le patronat ne prennent pas leurs responsabilités. J'appelle les travailleurs et les travailleuses à s'organiser et à se syndiquer pour ne pas laisser leur vie au travail.
Vous prendrez vos responsabilités, c'est ce que vous nous dites. Merci Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Et cette demande donc de ce droit de retrait, effectivement, ce droit de retrait en cas de très forte chaleur. C'est l'heure de la voix de gauche, on est jeudi, c'est Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Cécile, dans un instant, vous allez nous le dire, vous êtes dégoûtée, c'est le mot que vous m'avez dit. Oui. Saoulée, c'est le mot que vous m'avez dit, de ne pas avoir été suffisamment écoutée ces dernières années.
En fait, ça fait 25 ans que je suis une écologiste qui parle dans les médias, ça fait 25 ans qu'on alerte sur ce qui va se passer très précisément. Et ça fait 25 ans que c'est sous l'asile, les critiques. Et donc oui, je suis énervée. Je pense qu'on a le droit de l'être, tout en étant résolue à ce que ça change.
Vous nous le dites dans un instant. Il est 7h51 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, mais d'abord le bonus, Mathieu, avec une info majeure pour les gamers.
Oui, qui reconnaissent en quelques notes les ambiances du jeu GTA. Grand Theft Auto, le jeu vidéo où vous incarnez un criminel qui gravit les échelons du grand banditisme dans des univers inspirés de grandes villes américaines. Et GTA 6, c'est peut-être le jeu le plus attendu de la décennie. La sortie a été maintes fois repoussée. Les fans attendent de bande-annonce en bande-annonce, d'extrait en extrait, 13 ans après GTA 5. Désormais, on le sait, la sortie, c'est le 19 novembre prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series. Mais surtout, depuis minuit, vous pouvez précommander le jeu. Les joueurs ont le choix entre plusieurs éditions avec des contenus numériques exclusifs. Les premiers acheteurs ont des bonus, des véhicules, des tenues, des accès à GTA+, le service en ligne du jeu. Selon les versions, il faut débourser entre 80 et 100 euros pour le jeu qui sort le 19 novembre. GTA 6 s'annonce comme le plus grand lancement de l'histoire du jeu vidéo.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
C'est jeudi et c'est la voix de gauche sur RMC, Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Mardi, vous nous alertiez à propos des risques de la canicule sur les infrastructures, sur les réseaux électriques. Près de 120 000 foyers ont été privés d'électricité ces derniers jours en Bretagne, dans le Vaucluse, en Gironde. Il en reste quelques milliers ce matin. En fait, ça fait un grand bout de temps que vous alertez.
Oui, mardi, je vous expliquais que le risque, c'est que les réseaux électriques ne tiennent pas, et notamment les transformateurs. Et je ne suis pas un génie, Madame Irma. Il suffit juste de lire des rapports qui sont très documentés. C'est la même chose.
Vous le disiez mardi climatique. Et mercredi, en effet, on en a eu l'illustration.
Exactement. Et je peux vous dire d'ailleurs que maintenant, ce sont les armoires fibres qui sont menacées. Donc ceux qui ont envie de regarder la Coupe du Monde, préparez-vous à avoir un poste de radio parce que peut-être vous allez devoir l'écouter à la radio, la Coupe
sur
du Monde.
Sur RMC, évidemment, radio officielle de la Coupe du Monde.
Au-delà de la blague, la réalité, c'est que c'est insupportable d'avoir raison, en fait. Je me suis levée ce matin à 5h du matin, il faisait 29 degrés et ça m'agresse parce que je me dis, en fait, tout ça, c'est pas une fatalité. Tout ça, c'était évitable. Les scientifiques ont bien expliqué et on a surtout expliqué comment on pouvait faire autrement. Mais les archives vont être cruelles parce que regardez toutes les interviews et les débats avec les écologistes. Moi, je me souviens des moqueries, je me souviens de dire oh, ça va, 2 degrés de plus, on enlèverait un pull. Mais enfin, et on expliquait non, ce sera des vagues de canicule, ce sera des vagues de canicule mortelles et tout le monde rigolait. Donc, j'essaye de pas être en colère parce que je pense qu'il faut transformer cette colère en action, mais quand même, il y a des responsables à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui et je pense que l'histoire sera sévère à leur égard.
Il y a une prise de conscience collective là quand même.
Il y a encore des tentatives d'évitement et je voudrais revenir sur l'histoire de la climatisation. J'ai jamais été contre la climatisation parce qu'il faut protéger les plus fragiles, mais quand il y a plus d'électricité, il y a plus de clim. Là, à la Défense, la centrale de froid de la Défense. Son responsable a dit qu'ils étaient plus sûrs de pouvoir assurer la climatisation.
Son responsable, c'est l'ancien secrétaire général de la planification écologique.
Ben oui, évidemment, mais alors là, je vais vous dire, c'est pas parce que vous savez ce qui va arriver que vous êtes capable de pouvoir trouver les solutions. C'est pour ça qu'il faut à la fois travailler sur préserver les plus fragiles et les gens qui travaillent. Sophie Binet avait 100% raison, je rappelle, plus de morts de moins de 45 ans que de plus de 45 ans lors de la canicule de mai. Mais surtout, il faut s'attaquer au modèle. Et je le dis, les yeux dans les yeux d'Emmanuel Chypre. Il faut
Emmanuel Chypre qui vient d'entrer dans ce studio et qui est tout de suite alpagué.
Il faut la sobriété. Il faut arrêter de gaspiller de l'énergie. Il faut réussir à avoir un autre modèle économique. Parce que dans les années 80, quand on a commencé à lancer l'ultra gaspillage, c'est-à-dire qu'on a inventé l'idée de faire des emballages en plastique jetables plus grands que ce qu'ils contenaient pour donner l'impression qu'il y avait plus de choses. On a cramé notre planète pour rien ou pour des bénéfices d'ultra court terme. Et donc, il faut absolument changer de modèle. Et à la même époque, il y a des gens qui, justement, s'étaient dit, on va travailler sur le recyclage, la réparation, le réemploi, l'économie circulaire. Je le dis parce que je suis très fière d'avoir été élue la présidente de la Fédération Envie, mais depuis les années 80, il y a des pionniers. Et il faut les écouter maintenant. Il ne faut pas seulement s'occuper d'adaptation, mais il faut faire baisser drastiquement nos émissions.
Ça veut dire qu'il faut aussi la décroissance, il faut aussi la sobriété.
La sobriété, ça veut dire arrêter de cramer nos ressources fossiles qui, en plus, dégradent la planète. On n'a pas le choix que de faire les deux. Et c'est possible, hein, ça a été très documenté par le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz. La France a une grosse part à faire et aussi plein de capacités d'investissement, d'énergie, d'intelligence, d'ingénieurs. On doit pouvoir faire tout ça et le faire ensemble. C'est un beau défi, finalement. Et ne rien faire, je le dis là, c'est la responsabilité des politiques et moi, je serais très sévère. J'ai été dans un gouvernement, vous le savez, donc je sais aussi qu'on peut faire des choses. Le truc de dire « Ah, c'est trop compliqué », etc., c'est pas vrai. On peut agir, bien sûr qu'on peut agir.
Vous savez surtout qu'on ne peut rien faire.
Non, au contraire.
Par contre, faire des choses. Mais
bien
non,
sûr.
Pas à l'écologie, bien sûr que non.
Là, il y a l'économie versus
mais
l'écologie.
Mais c'est pas un débat, pardon.
C'est pas un débat, mais moi, je veux bien que ce soit un débat, parce que c'était pas la même chose il y a 20 ans qu'aujourd'hui, Apolline. Il y a 20 ans, on pouvait nous dire, ah, vous êtes alarmiste, c'est votre business de la peur. Mais sans déconner, qui se regarde dans leur glace, les gens qui osaient dire ça aux écologistes il y a 20 ans? C'est un scandale, parce qu'il y a des vrais responsables, et oui, on peut faire des choses. Oui, on peut investir dans les transports en commun. Oui, on peut investir dans les renouvelables. Oui, on peut moins cramer n'importe quoi. Et je termine là-dessus. Ceux qui nous donnent des leçons de sérieux, ce sont des gens qui ont développé des entreprises qui distribuent parfois plus de dividendes qu'elles font de bénéfices. Pourquoi ces gens donnent des leçons de sérieux alors que c'est eux qui nous emmènent dans la catastrophe? Moi, je veux qu'on travaille pour l'économie sociale et solidaire, pour une économie au service des gens, au service de l'humain et surtout au service de l'avenir de nos enfants.
Cécile Duflot, la voix de gauche sur RMC.
Pas énervée.
C'était pas un débat ce matin, mais ce sera un débat demain et c'est notre fierté, il faut le dire, sur RMC, d'avoir la voix de gauche, la voix de droite et les débats. Demain, vous débattrez avec Charles Consigny, la voix de droite. Ce sera à 7h50. Vous l'avez entendu, Emmanuel Le Chypre est dans ce studio. Dans un instant, il nous parlera des prix du carburant. Et il y aura aussi, évidemment, la météo et le journal. On se retrouve dans un instant sur RMC, 7h58.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.